Préparez-vous. Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Préparez-vous. Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous.
Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie.
C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Bienji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, vous ne vous êtes pas du tout trompés. Vous êtes bel et bien à l'écoute de votre très chère émission, l'heure de la vérité. Une fois de plus, nous bénissons le Très-Haut qui nous accorde ce merveilleux privilège d'avoir cette opportunité de passer un peu de notre temps dans sa sainte parole. Vous le savez déjà, l'heure de la vérité, c'est votre émission où uniquement la vérité biblique est proclamée. Juste à mes côtés, le frère Yannick, et derrière ce microphone, je suis, je reste et je demeure toujours votre très humble serviteur, pasteur serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Et bien entendu, comme toujours, tout se déroule sous l'œil très 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 vigilant, très très attentif, de son excellence, sa majesté, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, l'admirable conseiller, toujours imité mais jamais égalé, celui qui ne change pas, le Seigneur Jésus-Christ, qui seul mérite la louange, l'élévation, les acclamations, l'adoration, maintenant et pour l'éternité. Frère Yannick, sois béni dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus.
Amen, bien-aimé. Je veux profiter aussi pour saluer tous ceux qui sont en train de nous écouter, qui sont vraiment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Où que vous soyez, mesdames et messieurs, recevez tous nos sincères et chaleureuses salutations dans le merveilleux et magnifique nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à écouter et à apprécier particulièrement cette émission, l'heure de la vérité. D'ailleurs, ceux-là qui n'hésitent pas du tout de venir personnellement me voir pour encourager, féliciter, une fois de plus, soyez vraiment bénis au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, vous serez encore énormément édifiés. Et sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te donnons toute la gloire pour ces merveilleux moments. Nous te donnons toute la gloire pour ton souffle de vie. Nous te donnons toute la gloire pour ce privilège que tu nous accordes encore d'être là autour de ta sainte parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient uniquement de ta parole. Et ta parole qui est également la vérité est seule capable de nous affranchir. Merci parce que ta parole éclaire, ta parole libère, ta parole console. Merci de bénir ce moment, merci de bénir toutes ces multitudes où qu'elles se trouvent. Merci de prendre le contrôle de tout ce qui va se dire, de tout ce qui va se faire, et que en tout et pour tout, ton nom seul soit élevé, exalté, magnifié et glorifié. Tout autre esprit qui se lèvera de quelque manière que ce soit pour perturber ou pour distraire même ces auditeurs et auditrices, Seigneur, que cet esprit soit anéanti dans ses œuvres, dans ses plans, dans ses actions, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit que de la même manière que la pluie ne tombe pas sans avoir arrosé la terre, il en est de même de ta parole. Elle ne sort jamais sans avoir accompli ce pourquoi tu as permis qu'elle puisse sortir. Qu'il en soit ainsi une fois de plus. Merci parce que tu le feras. Merci parce que tu béniras toutes ces multitudes. Merci parce que tu béniras ce moment. Merci parce que tu béniras ta parole. Que toute la gloire, les honneurs te reviennent à toi seul maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen.
Amen.
Une fois de plus, comme d'habitude, vous êtes invités à avoir un stylo et sur quoi noter, parce que notre désir, notre souhait, c'est que votre foi soit fondée uniquement sur les Saintes Écritures et surtout interprétée selon le Saint-Esprit. Et avant de continuer à nous intéresser à certaines petites histoires qui nous donnent des grandes leçons pour la vie, nous allons d'abord lire quelques portions des Saintes Écritures. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Léanic, si tu as trouvé cette portion des Saintes Écritures, de 2 Corinthiens, chapitre 11, les versets 3 et 4, tu peux lire cela pour nous tous.
Il est écrit: toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien, parole du Seigneur.
Alléluia, amen. Dans cette portion de Sainte Écriture, mesdames et messieurs, la Bible nous dit que toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Nous voyons ici l'apôtre Paul, qui, inspiré par le Saint-Esprit, manifestait une certaine crainte. Et cette crainte, c'était que quoi? Les chrétiens, ou les hommes en général, les chrétiens en particulier, se laissent séduire de la même manière que Ève a été séduite dans le jardin d'Eden par le diable. Et cette séduction va consister en quoi? Le verset 4 de 2 Corinthiens 11 va nous dire ceci: si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, comprenez très bien, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ça sous-entend que il y a beaucoup de Jésus qui sont prêchés sur la terre qui n'ont rien à voir avec le vrai Jésus de la Bible. Ça peut paraître surprenant, mais la Bible ne peut pas du tout se tromper. Dieu ne se trompe pas. Si la Bible nous dit que si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, ça sous-entend clairement que les gens peuvent vous parler de Jésus qui n'ont absolument rien à voir avec le vrai Jésus de la Bible. Je me suis entretenu longuement avec vous et à la lumière des Écritures, c'était suffisamment clair qu'il y a beaucoup de Jésus sur cette terre qui n'ont rien à voir avec le Jésus de la Bible. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous encourage toujours, vous qui vous intéressez à Dieu, à voir la Bible et surtout prendre votre temps d'examiner les Saintes Écritures afin que l'on ne vous séduise pas, afin que l'on ne vous trompe pas du tout. Parce que je sais que les hommes sont capables d'utiliser la Bible pour séduire les gens, pour tromper les gens et même pour les détourner du droit chemin. Et lorsque j'ai parlé du diable, il était aussi clair que le diable connaît les Saintes Écritures. Il utilise les versets bibliques, mais tout en les tordant, tout en les sortant de leur contexte, juste pour soutenir les philosophies ou les traditions ou les dogmes. Donc le diable est capable de tordre les Saintes Écritures pour arriver à ce fin. Et si vous ne connaissez pas les Saintes Écritures, vous allez commencer à tomber dans son piège. Oui, comprenez très bien ce que le verset 4 nous dit. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, cela sous-entend également que, en dehors du Saint-Esprit du Dieu vivant, beaucoup de gens ont un autre esprit qui n'a rien à voir avec ce Saint-Esprit du Dieu vivant. Donc il y a plusieurs esprits qui agissent dans le monde en dehors du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit que lorsqu'il va envoyer le Saint-Esprit viendra pour nous conduire dans toute la vérité. Donc, il n'y a que le Saint-Esprit du Dieu vivant qui conduit les gens uniquement sur la vérité biblique. Par contre, les autres esprits détournent tout simplement les gens de la vérité. Et la dernière partie de ce verset 4 va nous dire ceci. Ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc la Bible va jusqu'à nous dire qu'il y a un autre évangile en dehors de l'évangile pur et simple que nous présente les Saintes Écritures, la Bible. Donc, soyez sous vos gardes. Il y a beaucoup d'évangiles qui n'ont rien à voir avec l'évangile du Seigneur Jésus. Et ce qui est tout de même inquiétant, c'est que la Bible nous dit que vous le supportez fort bien. Donc, les gens vont accepter volontiers des faux Jésus, un faux esprit et même un faux évangile. Mais je prie que vous tous qui êtes à l'écoute, que cela ne soit point votre partage au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen, amen.
Nous allons lire dans Colossiens chapitre 2, le verset 8. Nous avons déjà eu à lire cette portion des Écritures, nous allons y revenir. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Et nous ne sommes pas tenu par un programme précis qu'il faut respecter à la lettre, mais nous sommes conduits tout simplement par l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2, le verset 8. Frère Yannick, si tu as la part, tu peux lire pour nous tous.
Il est écrit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur des principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Parole du Seigneur.
Alléluia. La Bible nous met tous en garde. Prenez garde. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Écoutez très bien. Par la philosophie et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur des principes élémentaires du monde et non sur Christ. Si la Bible nous met en garde, c'est parce que le risque est réel. Et nous aussi, nous sommes là pour relayer cela, afin que nul n'en ignore. Étant donné que la Bible nous dit que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous allons également lire dans Galates. Galates, chapitre 1er. Frère Yannick, si tu trouves cette portion de Sainte Écriture, tu vas lire pour nous tous à partir du verset 8 au verset 9. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Galates.
Il est écrit, « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Parole du Seigneur.
Amen. C'est l'apôtre Paul en personne qui dit ici, si nous-mêmes, comprenez très bien, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème ou qu'il soit maudit. Même si c'est un ange du ciel, c'est pour cette raison que vous êtes encouragés à examiner les Saintes Écritures, parce que la Bible nous dit que même si c'est un ange du ciel, ce n'est pas parce qu'il est venu du ciel, ce n'est pas parce qu'il a un titre pompeux, ce n'est pas parce qu'il est influent, ce n'est pas parce que cette personne a de l'argent, non. Vous deviez examiner ce que la personne prêche, si c'est conforme à l'évangile vraiment biblique. Que la personne qui a vraiment des oreilles pour entendre, entende ce que nous sommes en train de dire. Le verset 9 va dire quoi? De Galates chapitre 1er. Nous l'avons dit précédemment. Je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile, c'est qu'à attendre celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème ou qu'il soit maudit, ou qu'il soit privé des révélations ou des lumières. En passant, sachez que lorsque quelqu'un commence à prêcher un évangile, qui n'est pas un évangile biblique, cette personne est privée de la lumière de Dieu. Cette personne est privée de la révélation. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, les gens peuvent se mettre à dire des choses qui ne sont même plus du tout cohérentes, que même le minimum de bon sens rejette, tout simplement parce que étant privé de la révélation, étant privé de la lumière de Dieu, parfois on dit des choses qu'on ne comprend même pas du tout. Voilà le danger de prêcher un autre évangile. Très chers auditeurs, mesdames et messieurs, vous écoutez l'heure de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et sans plus tarder, nous allons continuer à nous intéresser à certaines petites histoires qui nous donnent de grandes leçons pour la vie. Et la première histoire ce jour, c'est l'histoire d'un indigène qui s'est forcé de lire les évangiles, de lire le Nouveau Testament pour comprendre davantage. Parce que à un moment donné, il a commencé à s'intéresser vraiment à la parole de Dieu, surtout à l'évangile du Seigneur Jésus. Mais comme c'était un illettré, il s'est forcé à peine de pouvoir parvenir à lire, ce qui n'était pas du tout évident. Quelqu'un qui est illettré, qui n'a pas du tout fréquenté, qui est un barbare même en quelque sorte, un indigène, vous pouvez imaginer. C'est tout simplement parce qu'il voulait à tout prix comprendre lui-même ce qui était écrit dans ce livre. Et voilà, je tiens à préciser que c'était un noir. Et voilà, à côté de lui, il y avait un colon blanc qui se moquait de lui en voyant tous les efforts qu'il fournissait pour essayer de comprendre ce livre. Et le blanc était assis là en train de se moquer de lui en fumant sa pipe, un colon. Et cet indigène, et ce n'était pas du tout facile pour lui de comprendre les évangiles, va répondre à ce colon blanc que tu te moques de moi parce que je m'efforce de comprendre ce livre. En réalité, c'est le message de ce livre qui m'a transformé. Sinon, au lieu d'être là à fumer ta pipe et à te moquer de moi, tu serais déjà dans mon estomac. Je reprends. Cet indigène va dire à ce colon blanc que si ce livre, ou bien le message de ce livre ne m'avait pas transformé et changé, au lieu d'être là à fumer ta pipe et à te moquer de moi, tu serais plutôt dans mon estomac. Peut-être beaucoup parmi vous ne comprennent pas du tout ce qui se passe. En fait, avant que cet indigène noir n'accepte le Seigneur Jésus, c'était un cannibale. C'est-à-dire des gens qui mangent des hommes. Et c'est depuis le jour qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qu'il a cessé de manger les hommes. Voilà pourquoi il pouvait dire à ce blanc que le message de la Bible l'a changé. Mesdames et messieurs, en réalité, l'évangile change vraiment. Ce ne sont pas des histoires qu'on raconte. L'évangile est digne d'intérêt. Parce que lorsque cet évangile est prêché en esprit et en vérité, lorsque cet évangile est cru réellement, cet évangile transforme les gens. Imaginez un cannibale, quelqu'un qui avait pour viande l'homme, qui parce que tout simplement, il a accepté le Seigneur Jésus, qu'il abandonne cela. Il y a certaines choses qu'on n'abandonne pas facilement du jour au lendemain. L'évangile transforme. C'est pour cette raison que nous nous efforçons de vous présenter uniquement l'évangile et non la religion, et non une religion. Parce que si vous acceptez vraiment cet évangile comme il est écrit, en toute simplicité, avec foi, sans doute que votre vie va être transformée. Peu importe ce que vous êtes, l'évangile peut vous transformer. C'est ainsi qu'on peut voir des bandits même devenir des évangélistes. Qu'on peut voir des alcooliques, des drogués, des prostituées et autres devenir des serviteurs et servantes de Dieu. C'est ainsi qu'on peut voir vraiment des bandits qui n'ont pas été transformés, même dans les prisons, être transformés uniquement par l'évangile. Et sans plus tarder, nous allons lire dans Romains chapitre 1er, le verset 16. Romains chapitre 1er, le verset 16. Frère Yannick, tu peux lire cela pour nous tous.
Il est écrit, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parole du Seigneur. »
Amen. L'apôtre Paul pouvait dire qu'il n'a pas honte du tout de l'évangile. Et laissez-moi vous dire qu'avant que l'apôtre Paul ne devienne apôtre, c'était un persécuteur de l'évangile. C'était un persécuteur des chrétiens. Oui, il a beaucoup persécuté l'église du Seigneur. Mais lorsqu'il a été touché par l'évangile, il pouvait dire désormais, je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour vous sauver. Si et seulement si vous pouvez vraiment faire confiance à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, va nous dire quoi? Frère Yannick, tu peux chercher cette portion de Sainte Écriture et lire pour nous tous. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17.
Il est écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Parole du Seigneur.
Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce que l'Évangile fait dans la vie de tous ceux-là qui acceptent vraiment de tout le cœur l'Évangile du Seigneur Jésus. L'Évangile du Seigneur Jésus fait de vous une nouvelle créature. Les choses anciennes vont passer et toutes choses vont devenir tout simplement nouvelles. Que c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Très chers, très chers auditrices. Et 1 Pierre, chapitre 1, le verset 23, va nous dire quoi? Frère Yannick, la première lettre de Pierre, chapitre 1er, le verset 23. Oui, première lettre de Pierre, chapitre 1er, le verset 23. Oui, pendant que tu es en train de chercher cette portion de Sainte Écriture, Frère Yannick, que je vais lire pour nous tous, il est écrit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit ici que les chrétiens sont ceux-là qui ont été régénérés. Écoutez très bien, régénérés, récréés. Vous avez été créé par une semence incorruptible. Et cette semence n'est autre que la parole de Dieu ou l'évangile du Seigneur. Donc, il n'y a que l'évangile pour changer les gens, pour transformer les gens. En réalité, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons pour nous améliorer, pour changer, pour devenir meilleur, pour devenir bon. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de faire ce travail dans le cœur de l'homme. La prochaine histoire, c'est l'histoire de cette vendeuse qui était en train de lire la Bible. Et voilà un monsieur qui l'interpelle en lui disant, « Qu'est-ce que tu es en train de lire ?» Et la vendeuse va lui dire, « Je suis en train de lire la Bible qui est la parole du Seigneur de Dieu. » Et ce monsieur va dire à cette vendeuse, qu'est-ce qui prouve que ce que tu es en train de lire là est réellement la parole de Dieu? Et après avoir réfléchi un instant, la vendeuse va répondre à cet homme, pouvez-vous me prouver que ce qui est en train de briller là-haut, c'est le soleil. Et le monsieur va répondre à cette vendeuse, « Bien sûr que je peux prouver que c'est le soleil. » D'un, il m'éclaire, et de deux, il me réchauffe. Et la vendeuse de répondre à ce monsieur, c'est exactement ce que la parole de Dieu fait dans mon cœur. La parole de Dieu m'éclaire et la parole de Dieu me réchauffe. Alléluia.
Amen.
Nous allons lire dans le psaume 119, le verset 105. Oui, le psaume 119, le verset 105. Ce merveilleux psaume, frère Yannick, si tu le trouves, tu peux le lire pour nous tous.
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, parole du Seigneur.
Alléluia. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Donc, la parole de Dieu est suffisamment puissante pour nous éclairer, pour éclairer notre sentier et pour illuminer nos pas. Que c'est merveilleux. La prochaine histoire, c'est l'histoire de cette personne qui un jour a décidé de faire le sondage sur le péché. Oui, imaginez quelqu'un qui décide de faire un sondage sur le péché. Et il va trouver quelqu'un, un monsieur, en lui disant, « Cher monsieur, salut, je suis tout simplement en train de faire le sondage sur le péché. » Est-ce que vous péchez? Le monsieur va lui répondre, mais pas du tout. Je suis un homme honnête, bon. D'ailleurs, je n'ai jamais tué. Cette personne qui est en train de faire ce sondage sur le péché va continuer. Va demander à une dame, salut, chère madame, je suis en train de faire un sondage sur le péché. Est-ce que vous péchez? La dame va dire, mais non, pas du tout. Je suis une femme consciente de beaucoup de choses qui s'efforce de bien tenir sa maison. D'ailleurs, je prends soin de ma maison, de ma famille. Je ne pêche pas. Et cette personne va continuer. Il est en train de faire le sondage sur le péché. Cette personne va rencontrer une jeune demoiselle, disant, salut jeune demoiselle, je suis tout simplement en train de faire un sondage sur le péché. Est-ce que vous péchez? Mais la jeune fille va dire, mais pas du tout. Je suis encore tout jeune. D'ailleurs, mon casier judiciaire est encore vierge. Je vous laisse imaginer la suite. Moi, personnellement, il m'est arrivé de rencontrer beaucoup de gens qui, à propos de Jésus ou du péché, ont dit, je ne vois pas pourquoi vous me demandez de me repentir et d'accepter le Seigneur Jésus. Je ne suis pas quelqu'un qui pêche. D'ailleurs, je pratique les 10 commandements. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai jamais tapé l'enfant d'autrui. Donc, je n'ai pas besoin de me repentir, encore moins de recevoir Jésus. Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, nous allons essayer de corriger cette façon de voir les choses vis-à-vis du péché, en ce qui concerne le péché. Nous allons d'abord lire dans 1 Roi, chapitre 8, notez très bien 1 Roi, chapitre 8, le verset 46. Ici, c'est le grand roi Salomon, le roi le plus sage de la terre, le plus riche également en son temps, qui va faire cette déclaration. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 8, le verset 46, de la bouche du roi Salomon. Il est écrit quoi là, le frère Yannick?
Il est écrit, « Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. » Parole du Seigneur.
Amen. Le roi Salomon va dire ici que il n'y a personne sur la terre qui ne pêche point. Il n'y a personne sur la terre qui ne pêche point. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin de se repentir pour recevoir le Christ, pour recevoir son pardon et pour recevoir la vie éternelle. Et Romains, l'épître de Paul, chapitre 5 de Romains, le verset 12 va nous dire quoi, le frère Yannick? Nous sommes dans Romains chapitre 5 pour nos auditeurs et auditrices qui relèvent. Romains chapitre 5, le verset 12. Il est écrit quoi?
Il est écrit: c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Parole du Seigneur.
Alléluia. C'est tellement clair. La Bible nous dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, c'est-à-dire par Adam. C'est pour cette raison que dès que quelqu'un vient dans ce monde, ayant hérité la nature d'Adam, on a déjà ce péché, en quelque sorte dans le sang, qu'on peut appeler le péché adamique. Donc, ce n'est pas normal que quelqu'un dise que je ne pêche point, je n'ai pas besoin de me repentir, je n'ai pas besoin de Jésus. Ce n'est pas du tout sérieux. La Bible nous dit clairement que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et s'étend sur tous les hommes. Et tous ont péché. Et si nous restons dans Romains, l'épître de Paul aux Romains, cette fois-ci, le chapitre 3, le verset 23. Qu'est-ce qui est écrit là, frère Yannick? Romains chapitre 3, le verset 23.
Il est écrit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen.
Alléluia. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ou de la présence de Dieu. C'est pour cette raison que les gens doivent se repentir. Parce que lorsqu'on ne se repent pas, lorsqu'on continue à vivre dans ses péchés, même si on nie qu'on est un pécheur ou une pécheresse, la Bible nous dit qu'on est privé de la gloire de Dieu ou bien de la présence de Dieu. Parce que l'homme a été créé pour vivre dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans la présence de Dieu. L'homme sans la présence de Dieu est mort. Parce que c'est la présence de Dieu qui nous éloigne du péché. C'est la présence de Dieu qui nous éloigne du mal. Lorsqu'il n'y a pas la présence de Dieu, on est beaucoup plus attiré par le mal. C'est pour cette raison que nous pouvons remarquer que notre monde est à la dérive. Malgré tout ce qu'on peut faire, malgré toute l'éducation qu'on peut donner aux gens, la tendance de façon générale, c'est que les gens sont beaucoup plus attirés par les mauvaises choses, par le mal. C'est l'absence de la gloire de Dieu qui est à l'origine de tout cela. Parce que la gloire de Dieu repousse les mauvaises actions, repousse le mal. Mais l'absence de la gloire de Dieu attire le mal, attire le péché. Et dans 1 Jean, chapitre 1, la première épître de Jean, chapitre 1, à partir du verset 8 au verset 10. Pour nos auditeurs et auditrices, 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 8 au verset 10, frère Yannick, tu peux lire cela pour nous tous.
Il est écrit: si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Parole du Seigneur.
Alléluia. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Verset 9, nous sommes dans 1 Jean chapitre 1. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Nous faisons Dieu tout simplement menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, la Bible est suffisamment claire, sans commentaire. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la Bible nous dit, même si nous sommes des pécheurs, des pécheresses, Dieu a prévu une porte de sortie, la confession et l'abandon. Quand je parle de la confession ici, il ne s'agit pas de cette confession, de cette comédie qu'il faut aller faire chaque semaine devant le pasteur ou le prêtre. Non, ça c'est la comédie. Le fait de pécher toute la semaine pour aller se confesser le dimanche. Et non, ce n'est pas de cette façon que les chrétiens doivent vivre. Après avoir fini de confesser le péché au prêtre ou au pasteur le dimanche, le lundi on recommence le péché pour aller encore le confesser le dimanche. Ça c'est la religion et la comédie. Un vrai chrétien confesse ses péchés instant après instant. Dès que vous vous rendez compte que vous avez péché, que vous avez failli, vous confessez directement de façon instantanée vos péchés à Dieu en disant « Seigneur, j'ai menti, s'il te plaît, pardonne-moi. » Et là, le Seigneur vous pardonne. Si vous attendez le dimanche pour aller confesser vos péchés au prêtre ou au pasteur, si entre-temps le Christ revient, vous trouvez dans vos péchés. Quelle honte! Donc, un vrai chrétien ne garde pas les péchés, ne vit pas dans le péché. Nous pouvons pécher, nous pouvons tomber, mais la Bible nous dit de nous repentir, de nous confesser là. Et Dieu qui est fidèle et juste nous pardonnera et il nous purifiera même. Alléluia.
Amen.
Nous sommes en train de nous intéresser à certaines petites histoires qui nous donnent des grandes leçons pour la vie. Cette autre histoire, c'est l'histoire d'un roi français que ceux qui connaissent l'histoire peuvent peut-être un jour avoir lu cette histoire quelque part. Le roi François Ier. Et malheureusement pour ce roi, il a été vaincu et il a été fait prisonnier. Et pour sa libération, une forte rançon a été demandée. Des millions d'écus d'or. Je tiens à préciser ici que l'écu, c'était tout simplement l'ancienne monnaie française et c'est un pays d'Europe. Et il fallait payer plusieurs millions d'écus d'or pour libérer le roi François Ier. Et toute la France s'est saignée pour pouvoir amasser une telle somme. Et ce n'était pas du tout évident d'avoir une telle somme. Et il a fallu payer en tranches. Et la première tranche qui devait être versée afin que ce roi soit libéré devait être à peu près 4,2 tonnes d'or pour libérer le roi. Imaginez, à cette époque très très lointaine, amasser plus de 4 tonnes d'or. À cette époque, la France a vraiment saigné. Il a fallu vraiment récolter les fonds un peu partout dans toute la France. Tout simplement pour libérer un homme. D'ailleurs, c'était le plus grand transfert de fonds durant cette période. Le plus grand transfert. Tout cela pour libérer un homme. C'est vrai, c'était quand même le roi. La Bible nous relate une histoire semblable, mais l'inverse. Je dis bien l'inverse. C'est plutôt le roi qui doit donner une rançon pour acheter le peuple. À cette époque, c'est le peuple qui devait saigner pour trouver une rançon pour libérer le roi. Mais dans la Bible, il y a une autre histoire. Le roi qui paye une rançon pour libérer le peuple. Nous allons lire dans le psaume 49. Le psaume 49, à partir du verset 7 au verset 9. Il dit bien le psaume 49, à partir du verset 7 au verset 9. Yannick, si tu as la parole, tu peux lire pour nous tous.
Il est écrit: ils ont confiance en leurs biens, en se glorifiant de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Parole du Seigneur.
Amen. Avant de lire l'histoire du roi qui va donner une rançon pour racheter l'humanité, dans cette portion de Saint-Écriture, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils ont confiance, nous sommes dans le psaume 49, à partir du verset 7. Ils ont confiance en leurs biens. Et ils se glorifient de leurs grandes richesses. Ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre. Le verset 9 va nous dire, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Donc l'homme ne peut pas du tout se racheter. Même s'il est le plus riche de la terre, Dieu dit que ce rachat n'aura jamais lieu. Si les hommes comptent sur les richesses pour se racheter, pour acheter leur âme, pour acheter une place au paradis, cela n'aura jamais lieu. Maintenant, nous allons nous tourner vers les évangiles. L'évangile de Marc, chapitre 10, le verset 45. L'évangile de Marc, chapitre 10, le verset 45. Frère Yannick, si tu as la parole, tu peux lire pour nous tous.
Car il est écrit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Parole du Seigneur.
Alléluia. Ici, le Seigneur Jésus-Christ dit que lui, il est venu pour donner sa vie en rançon pour des multitudes. C'est merveilleux. Nous avons vu que la France, à un moment donné de son histoire, a dû verser des sommes vraiment faramineuses pour racheter un roi. Mais Jésus, en tant que roi des rois, est venu et il s'est donné lui-même. Il a donné sa vie à la croix pour nous racheter de nos péchés, de la perdition, de la malédiction et du jugement à venir de l'étang à la feu, de la misère. Oh, que c'est tellement merveilleux. C'est merveilleux. L'histoire du Seigneur Jésus, c'est l'histoire, la meilleure histoire jamais contée. Vraiment la meilleure histoire jamais contée. Je vous invite vraiment, si jusqu'à présent vous ne vous êtes pas encore intéressé à ce personnage qui est Jésus, faites-le le plus tôt possible. Son histoire est tout simplement merveilleuse. Et la prochaine histoire, c'est l'histoire de ce garagiste qui va tomber en panne sur un boulevard. Et naturellement, en tant que mécanicien, il va sortir de son véhicule et se précipiter dans son moteur pour essayer de chercher ce qui cloche, afin que son moteur puisse s'arrêter tout d'un coup sur un boulevard. Et voilà qu'entre-temps, quelqu'un va venir garer tout près de lui. Et à un moment donné, ce monsieur, ayant vu comment le mécanicien était en train de s'ennuyer devant son véhicule qui ne démarrait pas, ce monsieur s'est approché. Et pendant qu'il s'approchait, le mécanicien disait, même si j'ai besoin d'aide, ce n'est pas quand même ce gentleman bien habillé qui pourra faire quoi que ce soit ici. Et voilà que il va essayer de tripoter en tant que mécanicien, même jusque-là, rien. Et finalement, il va décider de céder place à ce gentleman qui va se pencher sur son moteur. Et en un laps de temps, voilà que le moteur va commencer à nouveau à tourner, à ronfler. Et le mécanicien, tout surpris, va poser la question à ce monsieur, mais comment est-ce que vous avez fait? Et le monsieur va tout simplement sortir sa carte de visite et lui tendre. Et sur la carte de visite, quelle surprise! Le mécanicien va tout simplement se rendre compte qu'en réalité, ce monsieur n'était autre que le directeur général de la société qui fabrique ce véhicule. Il va dire, je suis le concepteur de ce véhicule, donc je le maîtrise dans le moindre détail. Très chers auditeurs, très chers auditrices, mesdames et messieurs, de la même manière que tous les appareils, y compris les véhicules, ont été conçus par quelqu'un, nous aussi, nous avons été conçus par quelqu'un. Nous avons un concepteur, ou pour être plus clair, un créateur. Et il nous arrive tous d'être en panne pendant que nous sommes en train de cheminer au quotidien. Les pannes surgissent de part et d'autre. Et naturellement, nous essayons de tripoter comme nous pouvons pour essayer de nous en sortir. Malheureusement, parfois, ça ne marche pas du tout. Mais nous devions savoir que nous avons un créateur, un concepteur, il nous connaît mieux que nous-mêmes et il est bien placé pour nous aider. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de lui confier le volant de notre vie. Et lui, il s'assurera de mettre tout en ordre. Nous allons lire dans le psaume 100, le verset 3. Notez le psaume 100, le verset 3. Qu'est-ce qui est écrit là, frère Yannick?
Il est écrit, « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Parole du Seigneur.
Alléluia. Comme si Dieu voulait que personne ne l'ignore, la Bible nous dit, « Sachez que c'est l'Éternel qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Donc, il nous connaît mieux que nous-mêmes, mesdames et messieurs. Je ne sais pas quelle est votre situation, quel est votre problème. C'est Dieu qui vous a fait et il vous maîtrise dans les moindres détails. Il connaît de quoi vous êtes fait. Il connaît où vous êtes en panne. Si et seulement si vous pouviez lui faire confiance et un instant vous arrêter et lui confier vraiment à 100%, pas à 95%, pas à 98%, pas à 99%, 100% le volant de votre vie, vous verrez que comme ce concepteur de véhicules, il a fallu tout simplement un laps de temps pour remettre ce véhicule en panne, en marche, parce qu'il maîtrisait correctement ce véhicule. Dieu également est celui-là qui nous maîtrise. Si nous lui faisons confiance, nous allons nous rendre compte que les choses ont beau être dues, ça finira toujours par aller. Parce que Dieu sait là où il doit toucher pour que ça marche. C'est tellement merveilleux. Ayez vraiment foi au Seigneur. Ayez foi en lui, cessez de tripoter. Peut-être que vous avez déjà suffisamment tripoté jusqu'à ce jour, ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas donné quelque chose. Peut-être c'est le moment maintenant de vous tourner vers votre concepteur ou bien vers votre créateur.
Amen.
Lorsque vous achetez un médicament, à l'intérieur, il y a toujours une notice. Pourquoi? Tout simplement parce que les fabricants veulent se rassurer que vous n'allez pas vous tromper en utilisant ce médicament, ou même si c'est un appareil électroménager, il en est de même. Dieu est bien placé. Dieu est bien placé si nous nous tournons vers lui. La notice de la vie se trouve dans sa parole et bien sûr entre ses mains. Très chers auditeurs, très chers auditrices, vous voyez qu'en réalité, parfois, certaines petites histoires peuvent vraiment nous donner des grandes leçons pour la vie. Compte tenu du temps, hein, avant de nous séparer, la dernière histoire que nous allons partager, c'est l'histoire de ce musulman qui doit un jour dire à un chrétien, dans le sens de se moquer de lui, vous les chrétiens, vous adorez, vous suivez, et vous servez quelqu'un que vous ne voyez jamais. Au moins, nous, on peut aller en pèlerinage à la Mecque et voir le tombeau de notre prophète. Oui, c'est un musulman qui se moque d'un chrétien en lui disant que vous servez, vous adorez quelqu'un que vous ne voyez pas. Nous, au moins, nous avons le tombeau de notre prophète, où nous pouvons aller chaque fois là-bas en pèlerinage. Et le chrétien va tout simplement lui répondre en disant, ce que tu viens de dire, en réalité, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'a poussé à dire cela, même si tu ne le sais pas. En réalité, nous n'avons pas besoin d'aller en pèlerinage où il y a le tombeau de Jésus, parce qu'il est là à l'intérieur pour quoi que ce soit. Il est mort pour nos péchés. C'est vrai. Mais la mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti victorieux de la mort. Il est monté vivant dans les cieux. C'est pour cette raison qu'il n'a pas de tombe sur la terre, où il est à l'intérieur. Et ton prophète, c'est vrai, il est dans la tombe. C'est parce qu'il attend le jugement. Après la résurrection, il sera jugé. Et c'est Jésus qui le jugera.
Amen.
Mesdames et messieurs, très chers sœurs, beaucoup de personnages ont défilé dans ce monde. Confucius, Mahomet, beaucoup, il y en a tellement, de Hitler, tous sont morts, mais ils sont dans les tombes et ils attendent le jugement. Et c'est Jésus qui les jugera.
Amen, amen.
Et nous pouvons lire cela dans 2 Timothée chapitre 4, le premier verset. Qu'est-ce qui est écrit là? 2 Timothée chapitre 4, le premier verset.
Il est écrit, Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son royaume. Parole du Seigneur.
Alléluia. Je vous disais que l'histoire de Jésus, c'est la meilleure histoire qui n'ait jamais été contée. Il n'y a pas une autre histoire plus fascinante que l'histoire de Jésus. Un jour, il est venu sur cette terre pour accomplir la promesse que Dieu avait faite des centaines d'années. Il est né, il a grandi, il a donné sa vie à la croix. On l'a enterré, mais 3 jours après, il est ressuscité. Et mais avant de monter vivant dans les cieux, il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il reviendra également un jour pour juger les vivants et les morts. Beaucoup sont morts. Les Bouddhas, ils sont morts, ils attendent la résurrection et le jugement. Mais Jésus, lui, il n'est plus du tout dans la tombe. Il est vivant. Et vous pouvez l'inviter maintenant même dans votre cœur. Et vous allez voir qu'en réalité, il agira dans votre vie. C'est pour cette raison que lorsqu'on prie au nom de Jésus, les malades sont guéris, les démons sont chassés, les gens sont sauvés parce que Jésus est réellement vivant. Il est unique, il est incomparable. Donc, si vous n'avez pas encore fait la paix avec Jésus, c'est peut-être le moment de le faire. Nous pouvons faire ensemble cette courte prière pour vous qui voulez recevoir le Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Dites tout simplement, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort réellement pour mes péchés. Je te confesse mes péchés, Seigneur, et je te demande sincèrement pardon. Je crois que tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Et qu'à partir de maintenant, je devienne une nouvelle créature. Et que dans ma vie, au quotidien, je puisse vraiment expérimenter ta grâce et tes promesses. Merci Seigneur Jésus de me pardonner, de m'écouter, de m'exaucer et de venir dans ma vie et de me sauver. Que toute la gloire te revienne à toi et rien qu'à toi seul, maintenant et pour toujours. Amen.
Amen.
Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, de moi à l'autre, nous allons nous séparer compte tenu du temps. Il nous est imparti. Mais avant de nous séparer, Frère Yannick, est-ce que tu as un dernier mot?
Je vais encourager les fidèles auditeurs. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 37 à 40, mais je vais m'attarder beaucoup plus sur le verset 37. Mais si, pour ceux qui relèvent, peuvent relever le verset de 37 à 40. Alors, il lui dit, il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Oui, tous les hommes qui sont conscients savent que nos parents sont sortis d'Égypte par la main puissante de Dieu, Et aujourd'hui, avec des vents, des vagues, des marais et autres qui sont autour de nous, tout cela nous entraîne à retourner encore en Égypte. Et je veux profiter par là pour nous donner un peu la définition de l'Égypte. L'Égypte ici signifie tout simplement le monde. Et le monde ici représente la chair. Et la chair est, en fait, la chair est opposée à l'esprit. Donc, l'inverse de l'esprit, c'est la chair. Et tout ce qui vient de la chair est signe de l'imperfection. Donc, je voulais encourager les frères, les sœurs, les fidèles auditeurs de ne plus retourner dans le monde, de ne plus retourner en Égypte, mais de rester connectés à Christ. Et dans ce verset, il y a beaucoup de promesses. Dans ce verset que j'ai cité, il y a beaucoup de promesses que Dieu a données. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez lire cela et recevoir cette bénédiction, cette promesse pour vous-même. Amen.
Amen. Seigneur, sois béni pour ces petits moments que nous avons passés dans ta présence. Merci. Merci pour tout. Merci pour ces auditeurs. Merci pour ces auditrices. Merci d'étendre ta puissante main sur chacun personnellement. Merci d'éveiller afin que prochainement nous puissions encore nous retrouver sur cette même antenne, à la même heure. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, pour tout ce que tu feras, même au-delà de nos prières. Amen. Le Saint-Esprit est également tout en contrôle. Que la bonne main du Seigneur Jésus soit tout simplement sur vous tous et à bientôt.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet. www. pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot.
pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros des 00237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit NJENDJI. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais, jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.
Le bonheur m'accompagne.